point, c'est tout.
Elle était une fois une jeune femme qui se sentait effrayée face à l'évolution du monde et de la violence. Une femme qui perdait parfois espoir en l'humanité et en l'avenir. Dans ces moments, elle repensait à toutes ces fois où ses sœurs et ses adelphes avaient lutté à ses côtés. Toutes ces fois où elle avait été témoin d'amour et de bonté. Toutes ces fois où elle s'était sentie entourée et en sécurité. C'est ainsi que la force et le courage lui revenaient, l'aidant ainsi à lutter une nouvelle fois avec l'espoir que la lumière l'emporterait sur l'obscurité. Bienvenue sur Radio G dans Elle était une fois, votre émission féministe qui met en lumière les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez choisi Radio G sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Que vous soyez dans le bus en direction du taf ou confortablement installé dans votre canapé, préparez-vous pour une heure de lutte, de girls et de rire. Moi, c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mes acolytes et mes copines. Sa beauté nous éblouit à chaque instant de la journée. Elle est de retour sur notre plateau pour en découdre avec les mascus. Bonjour Emeline, comment ça va ? J'ai pas allumé ton micro, chut, désolée. Bonjour Emeline.
Ça va et toi ?
Ça va super. Où est-ce que j'en suis du coup ? Je suis perdue. Je vous souhaite d'avoir une copine aussi dévouée et fan de vous qu'elle peut l'être avec moi. C'est l'un de mes plus grands soutiens, une safe place à elle seule et qui mérite tout le love du monde. Bonjour Léonie, comment ça va ?
Bonjour, je vais pleurer.
Oh ! C'est un peu ça l'identité de l'émission. Elle a rejoint l'équipe pendant le mois de mars et ne nous a plus quittés depuis. C'est la photographe officielle de Elle était une fois et c'est surtout une girl pleine d'énergie. Bonjour Soraya.
Coucou.
Bienvenue dans l'émission.
Merci, je suis trop contente.
Ah, moi aussi, je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps qu'on essayait que tu puisses venir et tout ça, donc je suis trop contente que tu sois enfin là avec nous. Et surtout, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle heure de papotage. Vous m'avez grave manqué alors qu'on a passé le mois ensemble, mais c'est sans doute vous, auditeuristes, qui m'avez le plus manqué. Et justement, au sommaire de cette émission, on vous partage l'histoire exceptionnelle de Catherine Switzer, la première marathonienne de Boston. On vous propose également une nouvelle lecture avec Wash Day, Beauté Crépue de Jamila Rouser et Robin Smith. Vous avez peut-être connu ce moment dans votre vie où vous tentez d'apprendre à vous connaître, à vous définir, à trouver un sens dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Peut-être avez-vous trouvé du réconfort en posant des mots sur tout ça. Peut-être n'avez-vous pas encore trouvé les réponses à vos questions. Peut-être même n'avez-vous pas envie d'y répondre. On discute aujourd'hui d'orientation sexuelle et d'identité de genre. C'est dans une demi-heure environ, alors restez avec nous. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM pendant une heure où on vous accompagne pour lutter contre le patriarcat. Une heure dédiée aux femmes pour enfin les mettre dans la lumière qu'elles méritent. Vous êtes dans Elle était une fois. Mais avant tout ça, j'aimerais faire un petit point réaction à l'actualité. Je sais pas si vous l'avez vu, mais le festival Coachella a débuté pour une nouvelle édition il y a peu avec Sabrina Carpenter en ouverture. Au milieu d'un passage au piano, une fan dans le public pousse un... Oh waouh, c'est compliqué aujourd'hui. Une fan dans le public pousse un cri trié, autrement dit une zagruta, et j'espère que je le prononce bien, un cri de célébration porté par des fans dans de nombreuses... Des femmes... Oh là là, aujourd'hui c'est compliqué.
C'est compliqué, hein.
Pardon. Je reprends donc un cri de célébration porté par des femmes dans de nombreuses cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Surprise, Sabrina Carpenter s'est alors arrêtée en plein concert et a lancé au micro, je cite, « Je crois avoir entendu quelqu'un faire du yodel. C'est ce que tu fais, je n'aime pas ça. » La fan lui a alors répondu que c'est sa culture et Sabrina enchaîne, « C'est ta culture, le yodel, on est à Burning Man ou quoi, c'est bizarre. » Cette réponse a bien évidemment fait réagir sur la toile où de nombreux internautes ont relevé la méconnaissance et le racisme que comportait cette phrase de Sabrina Carpenter. La chanteuse s'est depuis excusée sur ses réseaux sociaux. Je cite « Je m'excuse, je n'avais pas bien vu cette personne et je n'entendais pas clairement. Ma réaction relevait simplement de la confusion et du sarcasme sans aucune mauvaise intention. J'aurais pu mieux réagir. Maintenant, je sais ce qu'est une Zagruta. J'accueille désormais tous les you-you et les yodels. » Si certains se sont satisfaits de ses excuses, pour d'autres ce n'est pas assez et cela traduit une violence raciste parce que sa réaction s'inscrit dans une manière de percevoir les cultures non occidentales comme différentes, bizarres et difficiles à comprendre. Toutefois, d'autres voix se font entendre pour nuancer la situation en rappelant le contexte aux États-Unis. En effet, le yodels aux États-Unis est porté à l'origine par la communauté Amish et est devenu depuis un symbole identitaire de l'extrême droite. Certains avancent donc l'hypothèse que la chanteuse ait craint une revendication de l'extrême droite, ce qui aurait expliqué sa réaction. Je me tourne donc vers vous, autour du plateau. Est-ce que vous aviez entendu parler de cet incident et qu'est-ce que vous en pensez ? Léonie.
Alors, j'avais pas entendu parler de l'incident de Sabrina Carpenter, enfin de la base, mais en fait, j'avais vu les vidéos après pour justement expliquer la culture qu'il y avait autour. Alors, j'ai perdu le nom du coup de...
Du cri ?
Oui.
La Zagruta.
Zagruta. Bah, du coup, j'avais vu des vidéos justement disant, enfin expliquant un peu l'histoire de ça et en rendant hommage justement à la Zagruta. Mais j'avais pas vu l'histoire de base.
Ok. Et toi, Emeline, est-ce que tu avais entendu parler de cette histoire ?
Alors oui, j'ai vu aussi du coup la vidéo, enfin du coup du moment où ouais. Sabrina Carpenter a fait le commentaire, et aussi des vidéos donc du après où les gens justement parlaient de l'histoire et de ce que c'était. Et enfin oui, du coup je trouve que ça montre aussi que c'est important même pour les artistes publics de se renseigner, je pense aussi sur. Sur un peu le monde ou sur différentes cultures, parce que ben, on connaît pas forcément toutes les cultures. Et le fait de faire un commentaire comme ça, ça montre aussi qu'il y a un peu ce truc où on comprend pas forcément. Enfin, du coup, elle a pas compris la culture de quelqu'un d'autre et elle a pas forcément montré qu'elle a essayé de comprendre non plus cette culture-là.
Ok. Et est-ce que comment tu prends ces excuses et tout ce que tu trouves que c'est bien et genre voilà, bah, maintenant qu'elle s'est excusée, elle a appris de ses erreurs et c'est cool, on passe à autre chose. Ou est-ce que tu restes mitigée?
Bah, on dirait plus une justification qu'une excuse.
Ok.
Mais en soi, je peux comprendre le fait qu'elle a pas forcément compris ou voilà, mais ça reste quand même un personnage public. Mm-hmm. Et quand t'es artiste public et que t'es connu par autant de personnes et qu'autant de personnes te suivent et t'écoutent, je pense qu'il y a un peu aussi cette responsabilité de quand même montrer que toutes les cultures sont prenables et enfin voilà.
Okay.
Enfin, pas forcément toutes les cultures, mais au moins qu'il y ait des choses ouais, qui sont prenables dans toutes les cultures.
Ok. Et toi, Soraya, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'avais entendu parler de ça ? Et qu'est-ce que ça t'en pense ? Est-ce que ça t'a fait réagir ?
Bah, clairement, étant moi-même bah, concernée, donc nord-africaine, et bah, j'ai vu ça et sincèrement, ça m'a choquée, mais énormément.
Ok.
J'ai republié des choses un peu sur mes réseaux, tout ça. Mais je trouve que sa réaction, elle était horrible, mais surtout parce que les extraits qui tournent sont aussi sont pas hyper représentatifs parce que la personne précise que c'est une culture arabe, que ça vient de sa culture, et elle est là et répète le mot ah c'est ta culture, genre juste après que la personne lui ait dit bah c'est la culture arabe, on fait ça quoi quand on doit célébrer, c'est quelque chose de positif, et elle est en mode bah I don't like it, it's weird, genre et même son expression bah c'est clairement une agression pour les personnes nord-africaines quoi.
Ok, donc ouais, toi ça t'a touché et pas dans le bon sens, et ce qui clairement se comprend.
Clairement.
Est-ce que autour de la table vous avez envie de réagir ou de rajouter quelque chose? Oui, Léonie.
Il y a quelque chose, alors pas forcément par rapport à ça, mais par rapport au festival Coachella en lui-même. Faut pas oublier que le patron, enfin le propriétaire du festival de Coachella est très proche des milieux conservateurs et notamment finance des opérations contre des associations anti-LGBTQIA+. Donc voilà, je trouvais ça aussi important de le mentionner dans tout ce contexte de politique, de polémique xénophobe et de dire que le festival en lui-même est pas dépolitisé du tout quoi.
Ouais, bah surtout qu'il a donné de l'argent à Trump pour sa campagne.
Oui.
Donc très clairement, et puis sans parler du désastre écologique que c'est. Ouais. Voilà, on a bien compris que c'était pas forcément le meilleur festival au monde. Merci à vous toutes pour cet échange. Et on va pouvoir passer à la prochaine séquence qui est un petit peu particulière. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on évoquait les dons d'ovocytes avec les copines du festival Tout Feu Tout Flamme. Sauf que bon, à ce moment-là, on n'avait pas tellement les informations sur le sujet. Et donc, j'avais dit que je ferais appel à une amie qui a fait un don d'ovocytes pour vous donner les bonnes informations. Nous allons donc écouter le témoignage de Crystal, notre première auditrice limogeaude, qui va nous partager son expérience et ses connaissances sur le don d'ovocytes.
Bonjour, moi c'est Crystal et aujourd'hui je vais vous parler du don d'ovocytes en France. Alors il faut savoir que tout est pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Donc déjà si vous vous dites « ouais je sais pas trop si je vais faire un don, tout ça », sachez que tout est gratuit. Et tout se passe à Tours, enfin une grande partie. C'est-à-dire que le premier rendez-vous est à Tours, au CHU, pour faire une batterie de tests assez simple, prise de sang, échographie, rendez-vous avec une psychologue pour savoir si on est sûr de vouloir faire un don d'ovocytes ou pas. Le rendez-vous est très rapide. Et ensuite, une petite arbre généalogique pour vérifier les maladies qu'il peut y avoir dans la famille et savoir si on peut transmettre ou non une maladie dans nos ovocytes. Ensuite, vous rentrez chez vous et pendant une à deux semaines, un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend, vous avez une injection à faire tous les soirs. Alors, il peut y avoir une infirmière qui vient vous la faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, cette infirmière vous fait des piqûres et tous les deux jours, vous vous rendez au CHU de votre propre ville pour vérifier que tout se passe bien, donc prise de sang, échographie. Et le jour où le CHU de votre ville estime que c'est bon, vous avez assez d'ovocytes, il contacte le CHU de Tours, vous retournez à Tours, de nouveau, tout est payé par la sécurité sociale, y compris le logement si vous devez y dormir, c'est important de le savoir. Et on va aspirer les ovocytes. Alors je vous rassure, c'est sous anesthésie générale, on ne se rend compte de rien, on fait un bon gros dodo et quand on se réveille, on a fait un don qui peut aller à une ou deux familles, voire trois si vous avez eu beaucoup d'ovocytes, et vous en avez également pour vous, gardez de côté. Moi je sais que j'ai 5 ovocytes qui m'attendent si un jour j'ai besoin de faire un enfant. Donc voilà, maintenant si vous avez des questions, vous pouvez contacter le CHU de Tours et ils répondront à toutes vos questions et je vous souhaite un bon don si vous en avez envie. Allez, au revoir et peut-être à une prochaine fois.
Merci beaucoup Crystal pour ton témoignage et pour ton don. C'est effectivement quelque chose qui est très très important mais qui peut être impressionnant au premier abord. Auditoriste, comme l'a si bien dit Crystal, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du CHU de Tours ou de tout autre professionnel de santé. Et elles seront là pour répondre à toutes vos questions et pour vous accompagner si vous souhaitez effectuer un don. Nous partons à présent à la découverte de Catherine Switzer qui est allée à l'encontre des mœurs pour pratiquer son sport.
Elle était une fois une coureuse, un marathon, 42 km, une coureuse ou plutôt la coureuse. Catherine Switzer qui, à 20 ans, devient la première femme à courir officiellement le marathon de Boston. Nous sommes dans les années 60 et à cette époque, le sport, c'était pas vraiment pour les femmes. Ou sinon, elles pratiquaient des sports considérés comme féminins, genre de la danse. Pour la course à pied, selon Catherine, elle a en majorité connu des personnes encourageantes. Mais dites-vous quand même qu'à cette époque, on nous disait qu'en faisant du sport, alors et attention, hein, c'est quand même des trucs horribles, horribles, horribles qui allaient nous arriver. Genre, on allait avoir des poils qui allaient nous pousser de partout. Dingue. On leur disait aussi qu'elles risquaient leur fertilité. Donc ça, c'est quand même moins cool. Enfin bref, Catherine Switzer, elle s'est pas vraiment arrêtée à ça. Et depuis son enfance, elle est encouragée à faire du sport. Elle a un entraîneur, une équipe avec qui elle fait du cross-country. Et lui vient à l'idée de participer à un marathon. Idée surprenante, mais pas impossible. Après tout, elle en a largement les capacités et elle le sait. Elle va donc voir son coach, Arnie Briggs, qui s'est montré très réticent. Mais bon, il a fini par accepter. Le 19 avril 1967, Catherine fit s'inscrire au marathon de Boston. Après tout, sur le papier, rien ne l'en lui interdit. C'est sous un temps quasi hivernal que le marathon commence. Aux côtés de son coach et de son petit ami, et de son dossard numéro 261, la course se poursuit, et soudain, un nouveau personnage fait son apparition. Jock Semple, co-directeur du marathon. Qui, soudainement, bondit hors de son véhicule officiel en remarquant la présence de la jeune femme. Il hurle, lui court après, tente moult fois de lui arracher son dossard. Tout ça sous le regard des photographes et journalistes qui, sous tous les angles, immortalisent le moment. Donnant cette photo emblématique où on voit clairement la scène. dans l'angoisse et derrière ses larmes, Catherine n'abandonne pas. Elle refuse qu'on pense qu'une femme n'en est pas capable, c'est impensable. Son coach, son copain qui réussit à éloigner le co-directeur et d'autres la soutiennent. D'autres encore la méprisent, dont Jock Semple de retour dans son véhicule qui crie des menaces qui au final se prendront un beau mur, on peut dire ça ouais. Et si ce moment n'était pas assez douloureux pour Catherine, il neige. C'est au bout de 4h20 de course qu'elle franchit la ligne d'arrivée. Une victoire vite effacée par l'Union Athlétique Amateur qui décide de la disqualifier. Pourquoi me diriez-vous ? Eh bien parce qu'en s'inscrivant, Catherine elle a pas écrit ses initiales. En gros, il l'accuse de fraude vu qu'on ne pouvait pas savoir que c'était une femme. Bon, c'est pas vraiment ouf, sachant qu'elle allait jusqu'au bout. C'est pas ça qui l'arrêtera de faire ce qu'elle aime. Elle continuera plus tard à organiser des courses, à pousser le système au changement. Et je vous ai donc raconté l'histoire de Catherine Switzer, femme qui ne s'est pas laissée abattre par le mépris de beaucoup, et qui, comme les mots de cette femme spectatrice de l'événement, « Vas-y petite cour, fais-le pour nous toutes, elle a fait pour elle et elle a fait pour nous. » C'est maintenant le moment de marquer une petite pause musicale, et pour ça j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de Tal ?
Oui !
Oui,
évidemment.
Je suis contente, parce que j'étais fan d'elle.
Est-ce
que
vous aussi ? Moi aussi ! Oui.
Et bah, en fait, ça fait hyper longtemps, je trouve, qu'on n'a pas entendu parler d'elle.
Grave.
Et en fait, c'est qu'elle a changé de nom. C'est plus Tal, c'est Talula. Mmh. Donc, j'avais envie de vous faire écouter une musique de son album T.I.O.T. 2, qui est sorti en 2023. Et je vais vous faire écouter B.I.W.F. Cette musique, c'est quoi? C'est vraiment l'été, les vacances, les cheveux au vent, la liberté. Donc, préparez vos lunettes de soleil et votre imagination pour vous sentir en vacances pendant cette pause. A tout de suite sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bitch, I wanna fly every day and night. Keep my head high. Oh, will I live or die? Every day I open my eyes. Never seen it right, but I think I'm seeing prideful like the rain. I just wanna stay, but I gotta go. I don't wanna pray, but I got to know. I've been feeling strange, unnatural. Let me get back on the universe side. So we born together, blue sky in the morning sun. Need you more than ever. Don't know how to say it, but I know I'm not the only one. Now we born together, blue sky in the morning sun. Need you more. I wanna cry, rain from my eyes. Everybody's changed, but I'm still the same guy. I wanna give my life over. I wanna break through cloud cover, just like the rain. I just wanna stay, but I gotta go. I don't wanna pray, but I got to know. I've been feeling strange, unnatural. Let me get back on the universe side. So we born together.
Toujours avec nous sur le 101.5 FM dans Elle était une fois, votre émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Toujours avec mes copines, Léonie, ça va toujours ?
Ça va très bien.
Toujours avec Emeline, Emeline, ça va toujours ?
Ça va super.
Toujours avec Soraya. Soraya, c'est qui ta chanteuse préférée ?
Je sais pas, mon dieu, wow. J'avais pas réfléchi à ça. Je dirais Chaim.
Chaim,
oui.
Ok. t'as bien réagi parce que j'aime bien poser des questions un peu qui piègent comme ça et qui prennent au dépourvu. Et je pensais que celle-là aurait été beaucoup plus difficile à répondre pour toi.
Mais... Et puis, les auditories sont pas vues, mais t'avais les yeux du démon.
C'est qui ta chanteuse préférée?
Je t'ai même pas demandé si ça allait, y a pas de, on va dans le vif du sujet. Ça va toujours quand même?
Ça va super bien.
Trop bien. Et ta chanteuse préférée, c'est Shaim. Léonie, c'est qui ta chanteuse préférée?
C'est hyper basique, mais c'est Taylor Swift.
C'est pas basique, c'est très bien. Emeline, c'est qui ta chanteuse préférée?
J'en ai trop.
Je comprends. En vrai, c'est exactement ma réponse aussi.
J'en ai cherché dans la playlist, du coup. J'ai envie de voir.
Tu peux.
Astrid, c'est qui ta chanteuse préférée?
Eh ben, justement, moi, je crois que j'en ai pas. J'ai pas de chanteur préféré non plus. En fait, j'ai pas de personne préférée. Je crois que juste j'aime bien des gens un peu aléatoirement. J'aime bien plusieurs ou une seule chanson d'eux. Dès-le. Et ça dépend. En femme, j'aime bien Just Shani en ce moment. Je la trouve trop, trop cool. Voilà. Donc, je vais dire elle. Et Yoa aussi, qui est incroyable, qu'on avait reçu dans cette émission. Emeline, est-ce que t'as trouvé ta réponse?
Ok. Oui, je pense.
Ok. Alors, dis-nous tout.
J'irai Naika.
Ok. Tu nous avais déjà mis une musique d'elle, je crois.
Ouais.
Mmh. Ok, j'aime bien. Auditoris, vous avez plus qu'à réécouter nos précédentes émissions pour découvrir Naika.
Vous avez pas le choix, en fait.
Super. On vous l'avait annoncé il y a quelques semaines et vous l'aviez vu sur nos réseaux sociaux. Elle était une fois, était présente au mois de l'égalité de la ville d'Angers. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on y a fait? On en débrief maintenant. Première question, avant de rentrer dans les détails de tout ce qu'on a fait pendant ce mois de mars. Échelle de fatigue sur 20. Comment vous avez vécu ce mois de mars, Léonie?
Il était dur, parce qu'en plus, je suis tombée turbo malade.
Grave.
Du coup, il était bien fatigant, mais il était hyper fun.
Et une note sur 20?
Ah oui, pardon, j'ai oublié ta question. Note sur 20 de fatigue?
Ouais.
Je pense que... Bah en fait à la toute fin quand j'étais malade vraiment j'étais à genre 18 de fatigue.
Ok ouais ok. C'est... Je comprends. Emeline, une note sur 20 sur la fatigue?
Je pense entre 14 et 15 ouais.
Ok ouais ou quand même hein.
Ouais mais ça va genre c'est supportable.
Ok. Soraya, tu étais présente avec nous sur tout le mois de mars comme photographe officiel de l'émission Elle était une fois. Ton échelle de fatigue sur 20?
Moi, je dirais 10, ça allait, sincèrement.
Ok.
C'est ok.
C'est ok. Très bien, 10. Mon échelle de fatigue sur 20, je dirais un bon 18, moi aussi, parce que c'était trop, trop bien, mais très fatigant. Bon, il faut dire aussi qu'on préparait tout ça depuis mi-février et que là, on n'a toujours pas fini, hein, parce qu'il nous reste toute la post-prod et tous les contenus qu'on vous a filmés et tout ça. Mais justement, qu'est-ce qu'on a fait? Premier événement auquel on a participé et qui nous a demandé le plus de travail et de préparation, c'était la soirée Bien-être au féminin du J Connecté. Une soirée où étaient réunis plein d'associations et d'actrices spécialisées dans la santé mentale, la santé physique et sexuelle des femmes pour nous donner des petits tips, des conseils et pour qu'on se sente bien et surtout pour passer un bon moment. Elle était une fois été présente pour couvrir l'événement, mais surtout pour animer une table ronde sur le sujet suivant. En 2026, comment se sentir épanouie en tant que femme? On a échangé sur ce sujet avec Pauline de Solidarité Femmes 49, une association qui vient en aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, avec Anne de la mission Ambassadeur Santé à Unicité, et de Léonie de Elle était une fois. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Léonie, de cette table ronde et des échanges qu'on a eus?
C'était hyper intéressant. J'avoue que c'était un peu stressant parce que de base, pour vous donner toutes les exclus, j'étais pas censée être dans la table ronde.
C'est vrai.
Mais c'était hyper bien. Et puis bah du coup, j'étais trop contente. Les discussions étaient hyper intéressantes. Et moi, je suis amie avec Anne.
Oui.
Donc, c'était aussi trop chouette de pouvoir partager ce moment-là avec elle. Non, vraiment super expérience.
Ok, trop bien, parce que c'est vrai qu'effectivement deux de nos invités n'ont pas pu être disponibles, ils nous ont prévenus 2 jours avant l'événement et que le jour même l'une de nos invités n'a pas pu venir, malheureusement elle a eu un souci et donc elle a pas pu être présente sur le plateau, donc on a dû beaucoup improviser voilà, s'adapter, mais ça s'est très bien passé et on en garde un très bon souvenir. Et justement, je me tourne vers vous, Emeline et Soraya, vous avez assisté à la table ronde pour prendre des photos et des vidéos. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était intéressant à écouter, Emeline?
Bah, franchement, oui, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'avoue, j'étais à fond dans mon rôle de photographe. De vidéaste, totalement. J'étais à fond dans mon rôle. Je pense que je faisais des allers-retours partout. En fait.
Donc, t'as kiffé?
De fou.
Ok. Et toi, Soraya?
J'ai adoré. Vraiment, vous avez trop géré. Vous étiez incroyable. Et les photos, bah, trop bien.
Grave. Vous verrez ça en temps et en heure. Quand, je peux pas vous dire. Mais un jour, c'est promis. Non seulement parce que vous pourrez voir prochainement la captation sur le YouTube de Radio G Angers. De nouveau, quand, je ne sais pas, mais un jour, ça sortira et vous pourrez découvrir cette fameuse table ronde. J'en profite par ailleurs pour remercier chaleureusement tous nos auditoristes qui sont venus sur place pour découvrir cette table ronde. Merci, merci beaucoup. Et je le répète, la table ronde sera disponible sur YouTube sur Radio G Angers. Autour du plateau, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette soirée? Ça peut être une activité sur place, une rencontre que vous avez fait, une de vos missions, un moment, un échange, peu importe, un truc dont vous vous souvenez et que vous avez envie de partager. Soraya.
Moi, je pense que ça serait l'énergie un peu de tout le monde, la chaleur un peu du lieu, tout ça, de tout le monde qui est heureux de partager un peu ses anecdotes et bah, surtout sur la table ronde qui était incroyable.
Grave. Emeline, un moment que tu as envie de nous partager?
Bah, franchement, c'est un peu pareil, je trouvais ça hyper cool l'ambiance qu'il y avait. Et aussi, j'avoue que la friperie, j'ai bien aimé parce que j'ai pu dénicher des petits hauts sympas.
Trop bien, donc toi tu te souviens de la friperie?
Ouais, et du massage aussi.
Ah, c'est vrai, t'as eu du massage. Ouais. C'était comment?
C'était grave, c'était trop court. C'était beaucoup trop court.
C'était 5 minutes.
Oui.
C'était beaucoup trop court.
Oui. Mais t'as kiffé. C'était un bonheur.
Ok. C'est vrai, il y avait le massage. Et toi, Léonie?
Moi, je pense que, bah, du coup, j'étais de mission de vlog.
Oui.
Pour cette soirée-là. Et en fait, j'ai adoré parce que, du coup, mon boulot, c'était de filmer les conneries de l'équipe. Et c'était hyper bien. Et j'ai adoré l'ambiance. Trop fun.
Vous pourrez découvrir ça un jour sur le YouTube de Radio G Angers. Voilà, ça va être un peu le un jour va beaucoup revenir parce qu'on est en plein de post-prod, mais un jour, promis, vous découvrirez tout ça. Moi, un truc dont je me souviens, c'était avant de la soirée, quand on devait faire le tour de toutes les associations et tout ça pour se présenter. Je vais résumer ce moment par Maman Canard.
Oui.
Parce que du coup, on était 6 meufs trop stylées et on allait voir chaque association pour se présenter et dire coucou, on est Elle était une fois et on va faire ça aujourd'hui. Et en gros, il n'y avait que moi qui parlais et j'étais entourée de mon gang, voilà, de mes petits canetons. C'était très mignon, très drôle. Donc c'est le moment dont je me souviens. Voilà, j'en profite également pour remercier énormément et infiniment Arnaud et le J Connecté qui nous ont permis de faire cette table ronde et de couvrir cet événement. Un grand merci à eux. Et bien sûr, je remercie Fadi et Cassandra qui nous ont assisté sur toute la préparation et sur les caméras, absolument toute la technique qui a été faite ce soir-là. Ils étaient là tous les deux. Et donc, merci beaucoup à Fadi et Cassandra pour votre aide. Et surtout, merci Cassandra d'avoir fait le J-Connecté, la radio en courant pour nous ramener les caméras qui nous manquaient, les trépieds et tout ça. Merci beaucoup. Le mois de mars est loin de s'être terminé là parce que nous avons aussi participé au défi mixité organisé par Face Maine-et-Loire au Relais Mairie de Montplaisir. Accompagnés de Marie Plotti et de Cécile Gatté, nous avons animé un stand afin d'échanger et de créer une fresque participative sur les sujets de la mixité, des discriminations et des stéréotypes. Une belle manière de sensibiliser des jeunes présents sur place. Là, je vais me tourner surtout vers toi, Soraya, parce que tu étais la seule présente avec moi pour prendre des photos. Qu'est-ce que tu as pensé des activités ?
C'était trop bien. Il y avait la fresque et ouais. Il y avait aussi une partie où il y avait des petites images et je les ai trouvées hyper impactantes parce que ça montrait les différences de traitement des hommes et des femmes, des livres pour enfants, des jouets, la taxe rose, tout ça, et je trouve que on oublie trop souvent que ça existe en fait.
C'est vrai. Donc globalement t'as kiffé?
Ouais, carrément.
Et t'as kiffé participer à la fresque aussi?
Oui, j'ai adoré participer à la fresque. Vous verrez ça dans le vlog normalement.
Dans le vlog, ouais.
Qui sortira un jour.
Moi qui étais de l'autre côté, j'animais donc le stand avec Marie et Cécile. C'était très intéressant aussi. Voilà, on a eu de beaux échanges avec quelques jeunes présents sur place. On n'a pas eu beaucoup qui se sont arrêtés sur nos stands, mais ceux qui l'ont fait, on a eu un très bel échange. C'était super intéressant de pouvoir échanger avec elle. Notamment, j'ai une petite pensée à cette très jeune fille qui n'avait pas très envie de nous parler au début et qui finalement a été celle qui a le plus écrit sur la fresque et qui a fait des collages absolument sublimes. Donc voilà, c'était trop trop bien. Et bien évidemment, je remercie très chaleureusement Marie Plotti de Face Maine-et-Loire pour m'avoir permis de participer à cet événement et de nous avoir permis de couvrir également. On a fait une petite interview qui sortira un jour sur notre Instagram. Vous découvrirez tout ça en temps et en heure. Donc merci beaucoup Marie, tu nous écoutes, je le sais. Donc un grand grand merci et de gros bisous. Dernier événement de notre mois de mars de folie, ça ne s'arrête jamais. Le festival Tout Feu Tout Flamme.
Oui.
On l'avait dit lorsque nous avions reçu Anne-Claire Chapa, Capucine Brébion et Valentine Mouton, elle était une fois été partenaire médiatique de l'événement, une très grosse responsabilité, mais qui était surtout un immense honneur. Qu'est-ce que vous avez pensé du festival dans son ensemble, Soraya ?
C'était incroyable, j'ai adoré. J'ai des larmes qui ont coulé, j'ai eu plein de trucs. Sincèrement, c'était incroyable, beaucoup d'émotions.
Beaucoup d'émotions. Emeline, qu'est-ce que t'en as pensé dans l'ensemble ?
Et pareil, il y a eu des larmes, des rires, de la joie, le loto.
Le loto,
oui, oui.
Le loto. On se tourne tout de suite vers toi, Léonie.
Bah, vous devriez pas, parce que j'ai rien gagné.
Oui, mais racontons, le mais loto.
C'était hyper bien. Je suis hyper heureuse de vous avoir transmis ma hype du loto. Parce que je pense que j'ai absolument réussi à vous transmettre la joie
grave,
du loto.
Clairement.
Et puis non, mais en fait, tout feu tout flamme, c'était incroyable, c'était trop bien. On a eu des crises de rire, de larmes de rire, mais c'était fantastique, j'ai adoré.
Et de nouveau, vous découvrirez tout ça dans le vlog,
un jour.
Est-ce qu'il y a une activité ou un stand qui vous a marqué, Emeline ?
En vrai, je pense le stand où il y avait Valentine, du coup, j'ai trouvé hyper cool son stand. Et il y avait aussi un stand, alors je sais pas comment elle s'appelle, la madame, mais okay. En gros, c'était des produits faits avec des plantes. Mmh. Et franchement, je kiffe parce que je kiffe les plantes.
Ouais.
Donc, Earthy Girl dans toute sa bouche. Donc, vraiment, ouais, c'est deux stands que j'ai kiffé. En vrai, c'était tous bien.
Ouais, tout était trop, trop bien. Léonie, un stand ou une activité qui t'a marqué ?
Bah, le loto. Enfin, voilà, ça. Personne n'est surpris. C'était super, le loto. Et j'ai adoré aussi. J'ai fait les deux soirées de stand-up. Et notamment, du coup, la deuxième,
ouais.
J'étais la seule à y avoir été, qui était un peu, du coup, le gala avec Valentine, Capucine et trois autres.
Anne-Claire, Capucine et trois autres personnes.
Oui, pardon. Oh là là, trop d'émotions. Mais Valentine, viens faire du stand-up si tu veux. Mais c'était hyper bien et trop, trop, trop chouette.
Le loto où on a gagné, Soraya.
Oui, on a gagné. Je suis hyper jalouse.
Soraya, un moment, un événement qui t'a marqué, enfin, une activité ou un stand qui t'a marqué ?
Pour pas dire le loto, okay. Je vais dire soit les courts-métrages qui sont passés, donc la diffusion des courts-métrages qui était hyper impactante, et autrement le stand de Gianelle, qui est une artiste incroyable. Donc j'ai gagné d'ailleurs son print.
Grave.
Incroyable.
Et c'était trop trop bien. Il y avait plein de choses à faire. C'est un truc de ouf.
Vraiment.
Et tout était exceptionnel. Moi je crois que je vais dire la soirée du vendredi, de stand-up du vendredi, avec toutes les humoristes angevines. C'était waouh. Il y avait 10 meufs trop badass sur scène. C'était incroyable. J'ai trop trop kiffé. Voilà, auditoris, vous pourrez découvrir dans quelques temps, un jour, les interviews de Gianelle, une illustratrice de talent qu'on a eu la chance de rencontrer, et de Grosse Lutte, une association de lutte contre la grossophobie, et c'est super important, donc c'est pour ça qu'on les met en avant. Et bien sûr, vous pourrez vivre tout ce mois de mars avec nous, puisqu'on a vlogué, comme on vous l'a dit. Il y aura un peu de tout dans ce vlog, hein, qui sortira très certainement en plusieurs épisodes. Il y a des rires, des événements de folie, des personnes de talent, beaucoup de stress aussi, du mental breakdown, le mien en l'occurrence, mais surtout beaucoup, beaucoup de rires. C'était un mois très, très riche en émotions qui nous a demandé beaucoup de travail, mais on est super reconnaissant d'avoir vécu tout ça et d'avoir pu accompagner toutes ces actrices exceptionnelles du territoire. Alors, un grand, grand merci à Arnaud Brahi et au J Connecté. Merci à Marie Plotti, à Fasminet-Loire. Et bien sûr, merci à Anne-Claire Chapa, Capucine Brébion, Valentine Mouton et à la maison de quartier Le Cartenet. Maintenant que la séquence émotion est terminée, je vais aller pleurer dans mon coin. Je vous laisse, auditeurice, avec une musique ultra aléatoire que j'ai retrouvée récemment. Ça parle de copines et de la force de l'amitié, donc ce que j'ai globalement ressenti durant tout ce mois de mars. Sortez vos micros et vos meilleurs chorés parce que vous écoutez BFF, Amis pour la vie, de la série d'animation Lollyrock.
Ouais, oh, je vous dis
méga
meilleure musique.
Je vous dis à tout de suite sur Radio G 100.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute.
Il n'est pas un seul jour sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleurs amis pour toujours. À chaque heure, chaque seconde, même sans changer le monde, on fait bouger les choses en s'amusant. Tu sais, de penser qu'aujourd'hui, cette amitié nous unit, moins que demain et plus qu'hier. Tu sais, de se dire après tout, que la vie devant nous ne finira jamais. Si ça va mal, un souci des petites rentes.
des amis pour la vie. Quand tu es dans la passe, ensemble on peut faire face et trouver pour de bon la vraie solution. Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. C'est un peu notre loi, les amis, c'est ça. Même si on n'est que trois, on est comme des milliers, milliers qui à la fin ne font plus qu'un. Mon amitié, ça ne s'explique pas, c'est parce que c'est toi, parce que c'est moi. C'est parce que c'est nous, pour toujours, et les galères passent à travers. Il y a de plus beau. Les amis pour la vie.
All day, every day, therapist, mother, maintenance, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him, so that he never lifts a finger.
Vous êtes toujours avec nous dans Elle était une fois sur Radio G, 101.5 FM ou sur radio-g.fr et je suis toujours avec mes copines Emeline, Léonie et Soraya. J'avais complètement oublié de vous dire aussi tout à l'heure qu'on a interviewé la librairie La Dévoreuse lors du festival Tout Feu Tout Flamme. Donc vous pourrez découvrir tout ça avec le reste. Un jour. Nous partons à présent dans les coulisses d'une routine capillaire. Quand s'occuper de ses cheveux devient un moment de partage et de rassemblement entre femmes, c'est tout de suite avec toi, Léonie.
C'est bien mon prénom. Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques temps, j'étais tranquillement posée sur le canapé de chez Astrid quand mes yeux ont directement remarqué qu'il y avait un nouveau livre dans sa bibliothèque.
C'est vrai.
Et oui, à force d'être chez elle, je remarque le moins de changements maintenant. J'ai regardé le résumé, qui avait l'air incroyable, et Astrid ne m'en a dit que du bien, alors je me devais de tester ce livre à mon tour. Il s'agit du roman graphique « Wash Day, beauté crépue », sorti en 2025, de Jamila Rosser, une autrice puertoricaine et dominicaine, et Robin Smith, une dessinatrice jamaïcaine. On retrouve un groupe de quatre meilleures amies, Davin, Nisha, Kim et Cookie, et on suit leurs aventures dans le quartier new-yorkais du Bronx au fil de plusieurs petites histoires qui ont souvent comme point de départ leurs cheveux. Le titre « Wash Day » fait d'ailleurs référence au jour dédié à la routine capillaire pour beaucoup de femmes noires, un jour où l'on met tout de côté pour se concentrer sur l'entretien de ses cheveux. Cette routine sert de porte d'entrée sur le quotidien de ces quatre femmes, un quotidien qui oscille entre la joie et des thématiques plus lourdes, mais sans jamais perdre de vue la puissance de l'amitié et de la sororité qui existent entre les différentes amies. Le projet est né en 2023 lorsqu'elles ont créé une campagne de financement participatif sur le site Kickstarter autour de la première histoire, celle qui a donné son nom au roman graphique « Wash Day ». Jamila Rosser s'est inspirée de sa propre routine capillaire et a voulu combler le vide quant à la présence de romans graphiques écrits par des femmes noires sur leur quotidien. Robin Smith écrit d'ailleurs sur la page Kickstarter qu'il y a quelque chose de radical dans l'histoire d'une femme noire qui prend du temps pour elle-même et prend soin d'elle-même d'une manière qui est propre à sa culture. Et je trouve que ça résume parfaitement leur projet et c'est incroyable. Jamila et Robin nous invitent à rentrer dans le monde de leur protagoniste, un endroit où l'on raconte ses derniers gossips romantiques par message à ses copines en attendant que la coiffeuse finisse son travail, un endroit où l'on va voir sa famille, où l'on sort, où l'on fait des soirées pyjama. Mais c'est aussi un monde où l'on fait face à la maladie, à la dépression et au harcèlement. Tous les sujets se mélangent sans jamais se marcher dessus et cela n'en est que plus réaliste. Les illustrations sont magnifiques, avec différents styles de dessin qui signifient des changements de personnages ou de temporalité et qui nous permettent d'admirer le talent immense des personnes derrière le projet. C'est un magnifique hommage à la résilience et à la solidarité des femmes noires que je ne peux que vous conseiller. C'est à la fois hyper touchant, drôle et réconfortant. En bref, une lecture incroyable. Je ne peux que vous conseiller de lire à votre tour « Wash Day, beauté crépue » de Jamila Rosser et Robin Smith. Quant à moi, je retourne me plonger dans ma bibliothèque à la recherche de nouvelles pépites féministes.
Merci beaucoup Léonie pour cette nouvelle découverte. Faut savoir que c'est une nouvelle acquisition pour moi du coup, et oh my god, j'ai tellement aimé ce livre, il était incroyable, il était magnifique. Je l'ai trouvé très vrai, sans embellissement de la réalité. C'est une représentation qui fait du bien et qui m'a vraiment touchée, alors même que je suis une femme blanche aux cheveux lisses, donc vraiment à l'opposé total des personnages, mais vraiment il était magnifique, je ne peux que vous le conseiller. L'heure est venue, à présent, de discuter d'un sujet pas forcément facile, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, comment faire face à la pression de la société. Je vais mettre un petit son quand même. Voilà. Comme je le disais en début de cette émission, nous sommes nombreux et nombreuses à s'être posé tout un tas de questions sur nous et sur notre identité. À l'adolescence surtout, il est tout à fait normal de se chercher, de tester des choses, d'essayer de comprendre ses émotions. Parfois, les réponses à ces questions nous viennent rapidement, parfois cela prend plusieurs années, parfois cela nous conforte sur ce qu'on pensait, parfois au contraire, c'est une grosse remise en question qui peut faire peur. Aujourd'hui, c'est un sacré sujet que je veux aborder, et peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde, et c'est ok, mais on est là aussi pour parler de tout. Bien évidemment, je ne vous demande pas de partager des choses ultra personnelles, seulement ce que vous avez envie de partager. Aucun tabou ici, juste de la bienveillance. Je vais commencer par une question assez large. Est-ce que vous avez eu un jour... peu importe le sujet et peu importe sur quoi, des questionnements sur vous-même ou sur votre identité, et est-ce que ça a été facile d'y répondre? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez en accord avec vous-même? Léonie.
C'est une question qui est assez complexe. Forcément, j'ai eu des moments, des questionnements sur mon identité. Et c'était quoi la deuxième partie, pardon?
C'est est-ce que t'as trouvé des réponses à tes questions, et est-ce qu'aujourd'hui tu te sens en accord avec toi-même?
Je me sens en accord avec moi-même, je suis juste pas sûre d'avoir une réponse bien définie.
Ok.
Sur voilà, j'ai pas vraiment de réponse, mais je suis en accord avec le fait de pas avoir de réponse.
Ok.
Je sais pas si c'est très clair.
Mais si, c'est complètement clair, et c'est tout à fait ok, et c'est trop bien que tu... Parce qu'il y en a qui ont besoin de réponses et qui, une fois qu'ils les trouvent, ils sont contents de les trouver, et d'autres qui n'ont pas forcément envie d'avoir une réponse très claire ou des mots très précis, et c'est tout à fait ok, l'important c'est de se sentir bien. Emeline, est-ce que peu importe le sujet, tu t'es déjà posé des questions sur toi-même, et est-ce que t'as trouvé des réponses, et est-ce que maintenant tu te sens en accord?
Oui, je me suis déjà posé des questions sur moi-même, et je sais pas si j'ai des réponses à toutes les questions, mais c'est pareil, en vrai je me sens bien sans réponse à toutes, et puis je sais qu'avec le temps peut-être que je les trouverai, peut-être pas, voilà.
Aujourd'hui t'avances assez sereine dans la vie et tu te sens bien.
Ouais, c'est ça.
C'est le plus important. Même question Soraya. Est-ce que tu te sens ok et avec toi-même, et est-ce que t'as des réponses à tes questions?
Bah, je pense que c'est naturel de se poser un peu des questions sur soi. Tout au long de, surtout de l'adolescence, on cherche, on essaye de se définir, et c'est ok de pas se définir. Moi, j'ai réussi, on va dire, et je suis en accord avec ça. Je suis très heureuse et très épanouie.
Trop bien. C'est une question qui est pas facile à répondre et qui peut évoluer tout au long de la vie, notamment parce que ça englobe plein de sujets différents. Déjà, ma question elle est hyper vaste et elle peut parler de tout, mais en l'occurrence aujourd'hui on va se concentrer sur les identités queer, donc LGBTQIA+. Il y a plein d'identités différentes, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Est-ce que vous êtes familière des différentes identités et orientations sexuelles, et comment vous vous êtes éduquée sur cette question? Emeline.
Moi je pense que celle les plus connues.
Les plus connues, ouais.
Voilà, mais après, il y en a où je pense que j'ai encore des questions, il y a des trucs où je sais pas tout.
Ouais.
Mais c'est toujours intéressant et je reste curieuse là-dessus. Et j'ai oublié de partir de ta question.
Comment tu t'es éduquée sur ce sujet? Comment t'as réussi à comprendre ces définitions, à comprendre les gens et tout ça?
Je pense qu'il y a un peu une part qui s'est faite aussi sur les réseaux.
Grave.
Les gens qui parlent, qui témoignent, etc. Et même des amis au lycée, à la fac, etc.
Ouais.
Bon, les discussions entre potes.
Ok. Soraya, est-ce que tu te sens assez familière avec tous ces sujets, et comment tu t'es éduquée?
Clairement, je pense que je connais à peu près tout. Bon, on peut jamais tout connaître,
non,
mais je connais une grande partie, et je pense que je me suis éduquée plus vers les réseaux, vers les témoignages, et même quand tu cherches à te définir, tu tombes sur des choses et tu te dis mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Et du coup, tu fais des recherches internet et tu te caractérises ou tu te caractérises pas à la chose.
Et puis ne serait-ce que au moins juste connaître le monde qui t'entoure, c'est clairement déjà pas mal. Léonie, est-ce que tu rejoins les filles ?
Ouais, je rejoins les réseaux et moi, ce qui a été dans mon cas hyper important, c'est mon groupe d'amis.
Ok.
En fait, quand je suis rentrée en master, j'ai eu un groupe d'amis qui a été hyper queer et du coup, ça faisait vraiment une safe place de discussion, de justement d'ouverture d'esprit, d'ouverture à toutes les identités queer. Et ça, c'était hyper important pour moi aussi, la recherche de mon identité et plein de choses liées à ça.
Donc ouais, t'as pu réussir à te sensibiliser et t'éduquer sur toutes ces questions-là de par ton groupe d'amis. Ok, moi c'était un peu les réseaux sociaux aussi et puis les gens de mon entourage finalement. Je me souviens sur les réseaux sociaux, il y avait le coin des LGBT. Je crois qu'il existe toujours aujourd'hui. C'est un peu mon point d'entrée dans ce milieu-là. Je l'ai croisé par hasard un jour au lycée et je l'ai trouvé super intéressant. Et en fait, il a mis des mots sur des identités que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai été me renseigner, pareil que toi, Soraya, faire ma petite recherche internet. Qu'est-ce que c'est ça ? Et ben voilà, t'as des réponses et c'est super. Donc il y a plein de comptes, plein de livres, plein de ressources qui existent et qui peuvent permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Quand on parle d'orientation sexuelle ou d'identité queer plus globalement, il y a souvent une idée qui revient, c'est que le coming out, il est obligatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'une personne queer met des mots sur ce qu'elle est et ce qu'elle ressent, elle se sent parfois obligée de faire son coming out, comme si elle le devait à la société. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez vous-même ressenti cette pression ou est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Soraya.
Personnellement, j'ai jamais ressenti le besoin de faire un coming out en tant que personne queer.
Ouais.
Mais quand on me posait des questions, bah j'hésitais pas à répondre en fait. Si tu me demandes qu'est-ce que j'aime, bah je réponds.
OK.
Mais autrement, je vais pas en parler de moi-même, enfin même quand j'étais jeune, j'en parlais pas forcément. Mais quand on m'a posé la question, je fais je suis ça, voilà.
Ouais, t'as pas ressenti la pression du coming out ?
Du tout, non.
OK, trop bien. Emeline, est-ce que toi t'as ressenti ou t'as été témoin de cette pression-là, que ce soit sur tes proches ou des amis ou des connaissances lointaines ? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui existe, cette pression-là ?
Un peu, mais en même temps, c'est plus sous forme de questions.
OK.
De questionnement que les gens ils se demandent et du coup, ils vont demander à la personne en question. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus l'impression que, en tout cas dans mon entourage, qu'il y ait eu une pression quelconque par rapport à ça.
Ok, donc toi c'est plus ce que t'as vu, c'est des questions parfois indiscrètes.
Ouais.
Ok, donc pas forcément très positif.
En fait je pense que c'était un peu mal dit ou alors peut-être un peu mal voulu.
Ok.
Sans vraiment que la personne avait une mauvaise attention
bien
derrière.
Bien sûr, ouais.
Mais je pense, ouais, sur le coup, c'est pas vraiment une question qui se...
Ouais.
Comme ça, quand tu connais pas la personne.
En fait. Effectivement, c'est toujours délicat. Donc un peu de la maladresse.
Ouais.
Bon mot a été tellement déformé, la maladresse. Ok, Léonie, est-ce que t'as ressenti cette pression ou est-ce que c'est quelque chose qui te parle ?
Oui et non.
Okay.
En fait, il y a un truc où je trouve que c'est vachement... Alors, c'est mon expérience et je sais pas si c'est partagé. Je trouve que c'est vachement plus simple de dire je suis queer à des inconnus que à des personnes genre de notre entourage proche.
Grave.
Genre, je peux dire à la terre entière je suis queer, mais des fois, il y a des gens qui sont en mode bah, je le dis pas. Mais je sais pas trop, c'est un peu aléatoire. Et en même temps, je veux dire, mes murs de ma chambre sont remplis de prints de femmes qui s'embrassent, donc... Enfin, je pense qu'il y a un petit indice dans la déco, quoi.
Mais t'as pas forcément verbalisé les choses auprès de ta famille, par exemple.
Non, mais avant de savoir que quand je pensais que j'étais hétéro,
ouais,
et qu'on me demandait si j'avais un copain, je disais j'ai ni de copain ni de copine.
Ok, donc t'as préparé
le terrain. Donc en fait, il y avait quand même quelque chose de dans l'histoire de dire je veux préparer le terrain pour d'autres personnes, pour un peu éduquer et dire que il y a pas d'obligation à l'hétérosexualité. Bah au final, j'ai préparé le terrain pour moi-même. Donc je pense que c'est pas une grosse surprise pour les gens autour.
Ok, je vois. Ça, c'est une idée, cette pression-là dont on évoque, c'est une idée qui a été mise en scène dans la saison 2 de Heartstopper. C'est ma série préférée de tous les temps. Après que Nick ait compris sa bisexualité, il se met en tête de faire son coming out, comme s'il était obligé de le faire, jusqu'à ce que son copain Charlie lui dise une phrase qui m'a tellement marquée que je vous la partage aujourd'hui. C'est étrange, quand on n'est pas hétéro, on se sent obligé de le dire à tout le monde et vite, comme si on le leur devait, mais pas du tout. C'est tellement criant de vérité et c'est ce qui me fait tellement aimer cette série. Parce que quand j'ai enfin posé des mots sur ma pansexualité et que j'ai accepté de me définir ainsi, j'ai cru comme beaucoup que je devais le dire à tout le monde, même si ça me terrifiait, alors que pas du tout. Vraiment, il n'y a aucune obligation. Et du coup, j'ai pas fait de coming out comme on le voit dans les films. J'ai pas réuni toutes mes personnes proches pour leur dire « Hey, les gars, les filles, je suis pansexuelle, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Un peu comme toi, Soraya, et comme toi, Léonie, c'est tellement plus facile de le dire à des inconnus ou à des personnes un peu lointaines. Et du coup, je le glisse un peu comme ça, comme je vous le dis aujourd'hui, comme si je vous disais que j'étais brune ou que j'aimais les coquelicots, comme quelque chose qui a pas la nécessité d'être un sujet. Et c'est très bien ainsi. Toutefois, si vous avez envie de faire une grosse soirée reveal et de réunir toutes vos personnes proches, d'en faire un événement de ouf, et ben c'est ok. Vous avez tout à fait le droit parce que c'est un moment qui vous appartient.
Est-ce que je peux être invitée au reveal?
Est-ce qu'on ferait un reveal tous ensemble pour reveiler à tout le monde? Comme ça, c'est pas facile, c'est moins facile. Oh, waouh!
Waouh!
Bref, est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette phrase de Charlie?
Oui.
Émeline, pardon!
En vrai, oui, je trouve qu'il a raison parce que je vois pas en quoi on devrait se sentir obligé de dire qu'on est. Qu'on a une orientation sexuelle particulière, puisque sans cette je sais pas, normal, genre en fait en soi on s'en fiche, j'aurais aimé qui vous voulez, je sais pas. On devrait le préciser à tout le monde, voilà. Après je comprends que genre si t'as un environnement où les gens autour de toi ils sont pas du tout habitués à ça, tu te dis ouais peut-être que ça va plus les choquer si ils le découvrent sur le comme ça, genre voilà, ou si je le dis avant. Peut-être que, je sais pas, les gens se disent que ça va moins les surprendre. Mais en même temps, on n'est toujours pas obligé de le dire. Voilà.
Ça nous appartient. Léonie, tu souhaites réagir?
Oui, et puis, moi, je me sens aussi hyper privilégiée dans ma situation.
Okay.
J'ai pas un entourage que je considère comme homophobe.
Mm-hmm.
Et donc, je ne me sens pas le besoin d'avoir un coming out ou d'avoir quelque chose comme ça. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de situations où l'entourage n'est pas aussi bienveillant que moi ce que je peux avoir,
ouais.
Et donc je comprends totalement le fait d'avoir peur aussi et la pression du coming out qui dépend aussi des privilèges de chacun et chacune par rapport à la situation qu'on a, et ça peut être quelque chose de très dur.
C'est effectivement vrai. Toi Soraya, comment t'as vécu ça? Est-ce que, parce que t'as dit que t'avais pas fait de coming out à proprement parler comme on le voit dans les films, tu l'as un petit peu glissé à droite à gauche comme ça, ça s'est fait tout naturellement. Est-ce que ceux à qui tu l'as dit, ça s'est bien passé? Comment tu l'as vécu toi?
Moi je l'ai bien vécu parce que mon entourage est très gay friendly, tout ça.
Okay.
Ils sont majoritairement queer.
Mm-hmm.
Et sinon c'était plus avec ma mère par exemple,
ouais.
Ma mère qui dans mon enfance elle avait pas des propos très très gentils pour les personnes queer, mais au final c'est elle qui est venue et qui m'a dit mais t'es quoi? Et j'ai fait okay. Écoute, moi je suis ça, et elle me dit comment tu le définis, et je fais écoute voilà, et je lui explique, je lui pose, et elle est en mode ok. Voilà, et ça c'est fini, on a continué à regarder Grey's Anatomy à la télé, et voilà.
Hyper random. Tant mieux si ça s'est bien passé, parce qu'effectivement c'est pas toujours évident. Moi je sais que j'ai la chance aussi d'avoir un entourage qui est assez ouvert, on va dire, dans mes proches, dans mes amis, assez ouvert. Mes parents aussi, enfin ma famille aussi globalement, même s'il y a parfois des propos homophobes qui me font peur, et du coup c'est aussi pour ça que je l'ai pas fait un gros reveal. C'est un peu, tout le monde s'en doute, on va pas se mentir, tout le monde s'en doute et me croit lesbienne. Alors je ne suis pas lesbienne, je vous l'ai dit, je suis pansexuelle, mais c'est ok. Et du coup moi j'ai fait un peu ce coming out avec ma petite sœur, qui a eu par le passé des mots très durs qui m'avaient fait beaucoup peur, et en fait on en a parlé il y a peut-être un mois, pendant le mois de mars. Ce mois a été si long.
Tout est lié.
Et en fait ça s'est bien passé, ça a été aussi un gros bouleversement à l'une comme l'autre, parce qu'on a pu avoir une discussion à cœur ouvert qui a été pas simple, qui nous a fait beaucoup pleurer, mais au moins on est parti sur une nouvelle dynamique. Et je sais que du coup c'est devenu ma plus grande alliée. Enfin c'était déjà mon alliée de tous les jours dans ma famille, mais là je sais que s'il y en a un qui ose dire un pas de travers, elle le démarre en fait. Voilà, donc je vous souhaite d'avoir des proches, des amis, de la famille, qu'importe qui, des inconnus, nous même si vous le souhaitez, des personnes en tout cas qui vous donnent de la safe place, qui vous donnent du love et qui vous font vous sentir en sécurité, c'est super important. Voilà, rapidement avant qu'on termine, est-ce que vous avez des représentations queer qui vous ont aidé, qui vous ont permis à mieux comprendre le monde qui vous entoure ou vous-même, et qui vous ont marqué? Emeline, est-ce que tu as des exemples?
Lady Gaga.
Oh, grave.
C'est le premier mot qui m'est venu, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Mais j'avoue que ouais, pour le coup, j'ai juste pensé à
Lady Gaga, mais clairement iconique. Soraya, une personnalité, ça peut être un personnage fictif aussi. peut être de tout.
Bah je dirais Lady Gaga aussi en vrai. Band This Way, c'est vrai que bah quand j'ai découvert ma pansexualité, bah j'étais en mode OK, let's go.
Let's go. Band This Way. Donc Lady Gaga, ça fait deux Lady Gaga, trop bien. Et toi Léonie?
Bah moi c'est mon groupe de potes. Okay. C'est mon groupe d'amis de master. Où en fait ils parlaient hyper librement de qui ils étaient, des questions, ça peut être d'identité de genre, d'identité sexuelle, d'asexualité aussi, c'était hyper intéressant. Et en fait en les entendant parler, je me suis dit mais en fait je me retrouve dans plein de trucs. Et je pense que c'est ça, c'était vraiment une grosse inspiration aussi pour me laisser un peu piocher un peu partout.
C'est trop beau et on leur envoie beaucoup d'amour et de love, oui. Et de grosses pensées pour avoir été cette inspiration qui a fait du bien. De mon côté, je pense que je dirais Nick de Heartstoppers, sans grande surprise, j'en ai parlé juste avant, parce que vraiment, je me suis tellement retrouvée dans son personnage, dans son évolution. Le voir, en fait, qu'il pensait être hétéro et que, en fait, finalement, ah, il est peut-être pas tellement hétéro, et découvrir, enfin, mettre des mots sur sa bisexualité, puis après, comprendre tout ça, process, et puis se dire qu'il faut qu'il fasse son coming out, et puis finalement, ah, il est pas obligé. En fait, vraiment, toute son histoire m'a énormément parlé, et sa phrase iconique de I'm bi actually and so what, pardon, en fait c'est j'en ai fait la mienne en fait clairement, et je l'ai trouvé tellement exceptionnel. Donc Nick de Heartstopper et globalement toute la série Heartstopper qui offre une représentation très belle et très positive. Il y en a qui disent que c'est un peu trop rose et bisounours, c'est pas réel. Mais en fait, par pitié, le monde est déjà de la merde, donc si on peut avoir du positif dans la vie, on prend. Merci beaucoup les filles pour cet échange. C'est un sujet qui était très important pour moi et je l'imagine pour vous, et peut-être aussi pour vous aussi auditrices. Je sais pas si on a été très juste dans ce qu'on a raconté, mais j'ai le sentiment qu'on a été vrai. Comme d'habitude, c'était beaucoup trop court et peut-être qu'on fera une partie 2, qui sait. Auditeurs surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur EUF-RadioG pour nous partager votre avis ou des réflexions que vous avez eues en nous écoutant. On est là aussi pour prendre de tout, donc vraiment n'hésitez pas qu'on puisse échanger avec vous, ça nous ferait trop trop plaisir. Merci beaucoup à l'équipe d'aujourd'hui, merci Léonie, merci Emeline, merci Soraya. Ça va Soraya pour ta première fois dans l'émission?
C'était génial, oh, je vous adore.
Nous aussi on t'aime trop. Que du love ici. Merci à vous aussi auditeurs d'avoir suivi cette émission, on se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux sujets. C'était Elle était une fois, votre émission féministe du 101.5 FM, et je suis toujours aussi heureuse de pouvoir discuter avec vous pendant 1 heure. On vous a parlé durant 7 heures de la coureuse Catherine Switzer, ainsi que de beauté...
Wash Day,
beauté crépue. Crystal, notre auditrice Limojo, nous a parlé de son expérience du don d'ovocytes. Puis nous avons fait un gros débrief de notre mois de mars avant de parler d'identité queer et de pression de la société. On vous souhaite une très belle journée sur Radio G, retrouvez Entre les pages ce soir à 17h. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles voix féminines, rendez-vous jeudi à 20h pour Elle chante la francophonie. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines à 13h. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram EEUF-RadioG. Et pour bien finir cette émission, on termine avec une dernière musique présentée cette fois par Léonie.
On retourne quelques années en arrière avec ma musique d'aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir Wake Up de Madison Reyes, tiré de la série Julie and the Phantoms. Je pense que toutes celles qui ont vu cette série peuvent se mettre d'accord sur le fait qu'elle était incroyable et qu'on pète tous le somme qu'elle ait été annulée.
Grave.
Profitez du soleil et rechargez-vous en ondes positives en écoutant cette musique. Je sais pas vous, mais moi elle me donne envie de danser et de chanter à oui. Plein poumon. On se retrouve dans 2 semaines sur Radio G, 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Gros bisous.
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 Pain, 'cause it makes you you. Though I wish I could hold you through it. I know it's not the same. You got living to do. And I just want you to do it. So get up, get out. You light that spark. You know the rest by heart. Wake up, if it's all you do. Look out. It's what you gain, raising your voice in the rain. Wake up, quit dreaming, make it true. Look out, look inside of you. It's not what you lost. Realize that spark, time to come out of the dark. Wake up. Wake up. Better wake those demons. Just look them in the eye. No reason not to try.
Life can be a mess. I won't let it cloud my mind. I let my fingers fly. And I use the pain, cause it's part of me. And I'm ready to power through it. Gonna find the strength, find the melody. Cause you showed me how to do it. Get up, get out, relight that spark. You know the rest by heart.
Radio G. www.radio-g.fr.